Les quatre colonnes, la chronique qui décrypte l'actu sur Radio Immo.
À la une des quatre colonnes cette semaine, MaPrimeRénov. Cette aide publique lancée en 2020 par l'État et gérée par l'Agence nationale de l'habitat, l'ANAH, pour inciter les particuliers à se lancer dans la rénovation énergétique et thermique de leur logement. C'est un vrai coup de gueule qu'a poussé le chef de l'État Emmanuel Macron vendredi dernier, lors d'un échange avec la presse quotidienne régionale, à l'occasion de la conférence des Nations Unies sur l'océan, du 9 au 13 juin dernier, sur la fin des zones à faible émission, les ZFE, ou sur les interrogations liées au diagnostic de performance énergétique, les DPE. Emmanuel Macron a effectivement rappelé que ce n'est pas le moment de créer des incertitudes. Et à l'Assemblée nationale, c'est au tour d'Anaïck Lemeur, députée de la première circonscription du Finistère et vice-présidente du groupe Ensemble pour la République, de pousser son premier coup de gueule sur la prime Rénov, confie-t-elle lors de l'examen de la proposition de loi sur l'encadrement des loyers en Outre-mer la semaine dernière. Au final, Amélie de Montchalin, la ministre des Comptes publics, celle qui cherche des milliards d'euros pour présenter son prochain budget 2026, a affirmé ce mardi sur RTL que MaPrimeRénov, cette aide publique à la rénovation thermique des logements, reprendra à partir du 15 septembre prochain. C'est un soulagement pour les acteurs de la filière, de la rénovation, du bâtiment, la CAPEB et de la Fédération française du bâtiment. Anaïck Lemeur, députée depuis 2017 du groupe Ensemble pour la République, du Finistère, circonscription de Quimper, se confie.
Pourquoi ce coup de gueule dans l'hémicycle ?
Alors c'est un coup de gueule par rapport à la prime rénov, mais par rapport en fait à tous les reculs que l'on fait et que l'on constate actuellement sur l'aspect écologique. C'est-à-dire qu'il y a des partis politiques qui actuellement ignorent en fait qu'il y a un fait climatique qui fait qu'il y a des modifications de notre climat et qu'il faut agir. Donc on revoit le ZAN, on revoit les ZFE, on revoit tout, on remet tout en question, on arrête tout, on veut tout suspendre. C'est un peu populiste quand même, il faut arrêter. Au bout d'un moment, il y a une réalité. Moi, je suis d'un territoire de Bretagne où la montée des eaux, les inondations, les submersions, les sécheresses deviennent notre quotidien. Donc à un moment, on ne peut pas l'ignorer, on ne peut pas être en tant que politique des gens qui allons œuvrer dans ce sens. Donc c'est un engagement du président de la République, c'était le mien aussi en me présentant auprès de lui. Donc à un moment où je ne peux pas accepter cette façon de penser qui est de tout balayer et de casser le jouet parce que le jouet ne nous plaît plus.
Pourquoi d'après vous le dispositif de MaPrimeRénov est victime de son succès ?
Alors il est victime de son succès parce qu'effectivement il y avait réellement un besoin et une nécessité en fait que d'accompagner la rénovation énergétique parce qu'on avait subi aussi des crises énergétiques au niveau du prix en fait de l'énergie ces derniers temps. Donc les gens ont pris conscience qu'il y avait réellement nécessité à le faire. Et puis il y a un outil qui a été, un dispositif qui a été amélioré progressivement. Alors bien sûr il y a eu beaucoup de refontes donc ça a un peu perdu des fois à des moments les gens. Mais là pour l'instant on voit qu'on arrive quand même à pallier à plusieurs niveaux, notamment dans les copropriétés qui était quand même le gros sujet et donc qui permet à chacun maintenant d'y accéder. Il y a eu aussi en fait des accompagnateurs Rénov qui ont été mis en place pour améliorer justement l'instruction des dossiers en amont. Et donc ça a fait que ça fonctionne mieux. Donc c'est un besoin, je pense, c'est une réalité. Il y a une prise de conscience de la population que rénover son bien, c'est une valeur immédiate parce qu'on gagne de l'argent, parce qu'on en dépense moins en énergie. Et à long terme, ça valorise son bien.
Les propositions de la ministre vous ont-ils rassuré après plusieurs questions des parlementaires dans l'hémicycle ?
Ah oui, parce que certains pensent que dès lors qu'on dit suspension, c'était un mot de fin et qu'on arrêtait, que c'était plus du tout une suspension, mais ils voyaient en fait une fin en dispositif. C'est pas le cas. C'est une suspension, on va dire, administrative, simplement pour gérer les dossiers. Il y a eu aussi des phases de fraude qui sont aussi à mieux contrôler et à mieux gérer. Donc ça permet en fait d'amener en fait une fiabilité sur le dispositif pour permettre en fait à chacun de pouvoir de façon vertueuse trouver les moyens de pouvoir rénover. Donc moi j'ai confiance en elle, je pense que c'est une combattante et qu'elle va tout faire pour que le dispositif soit pérenne.
Et concernant Bercy, qu'attendez-vous ?
Bah avec Bercy, c'est toujours pareil. Hein. Il faut toujours négocier, il faut tordre un peu le bras à Bercy pour pouvoir avoir des choses. C'est un peu le jeu des politiques. Nous, quand on est députés, on est entre deux feux, c'est-à-dire le feu du terrain et le feu du gouvernement. Et nous, on est là aussi pour accompagner la réalité. C'est vrai qu'actuellement, on a quand même une dette qui fait qu'on ne peut pas non plus tout faire. Il faut être un peu conscient. On est là aussi en responsabilité. C'est un mot que certains n'aiment plus entendre, mais c'est une réalité. Et donc, on se doit aussi de leur montrer que la crise du logement, derrière, elle est là, elle est réelle, elle est forte. Et ça impacte quand même le pouvoir d'achat des ménages. Donc, derrière, améliorer l'habitat, ça reste une nécessité. Et à long terme, c'est aussi un gain, parce que derrière, ce sont des travaux qui sont engendrés, qui génèrent aussi de la TVA. Donc, ce n'est pas qu'une perte. Donc, je pense qu'il faut les convaincre dans ce sens, comme quoi c'est une nécessité, mais c'est aussi un gain à long terme pour les citoyens et à la fois pour l'État.
Revenons sur le budget de la prime Rénov', d'après vous, est-il donc sanctuarisé à 3,6 milliards d'euros? Et qu'en savez-vous plus sur le sujet, sur les centaines de millions d'euros de certificats d'économie d'énergie?
Alors pour l'instant, je ne fais que croire ce que j'ai entendu des propos de la ministre, donc je lui fais confiance là-dessus. Je ne vois pas comment demain on pourrait penser qu'on va diminuer ce budget-là. Je veux dire, je pense que c'est un budget plancher et que de toute façon, il ne peut qu'augmenter. Après, sur les certifications, il y a un besoin aussi d'engendrer des certifications. Donc, effectivement, ça serait cohérent au vu des demandes que tout cela s'harmonise. Maintenant, si le budget peut être plus haut à long terme, parce que sanctuarisé, ben, d'accord, mais c'est le plancher. S'il pouvait monter, ça serait quand même mieux. Je pense qu'il y a une nécessité de mieux accompagner avec peut-être plus de contrôle, effectivement, pour rendre les mesures plus efficaces.
Que répondez-vous aux détracteurs qui évoquent des taux de fraude importants? Le ministre de l'économie, Éric Lombard, évalue à 16 000 le nombre de dossiers suspicieux, soit 12% du stock.
C'est une réalité. C'est ce qui a été démontré, notamment par l'ANA, comme quoi il y avait une grosse part, justement, de dossiers frauduleux. Donc l'intérêt qu'il y a maintenant, c'est qu'il y a la loi CASNAV, notamment sur les fraudes aux aides publiques, qui a été votée et qui permettra justement de pouvoir bloquer ces fraudes en amont et non pas une fois qu'on les constate. C'est-à-dire qu'avant, on n'avait pas de capacité à constater la fraude que a posteriori, alors que maintenant, on pourra le faire a priori avant, en anticipation. Donc c'est quand même mieux de pouvoir constater, au moins révéler la fraude en amont, plutôt que de juste devoir demander après un remboursement qui est beaucoup plus compliqué.
Sur le terrain, comment ça se traduit le dispositif de la prime Rénov', par exemple en Bretagne?
Alors c'est toujours perçu comme quelque chose d'assez complexe, il faut quand même le dire, le dossier n'est pas forcément évident, les gens déplorent parfois les délais qui se sont réduits mais qui restent quand même longs pour la plupart des citoyens, notamment les délais d'instruction ne sont pas très très longs, mais c'est plus les délais après de paiement, etc. Alors sur le terrain, on a deux parties, on a aussi les chefs d'entreprise qui ont fait des apports de trésorerie et qui attendent d'être payés tout simplement par l'État, donc là il y a quand même du mécontentement parce qu'il y a de l'attente, et du côté des citoyens, je peux vous donner l'exemple dernièrement d'une dame qui est assistante maternelle et qui a du mal à comprendre pourquoi son dossier n'est pas prioritaire alors qu'elle a nécessité à faire les travaux sur la période estivale parce que c'est là où les enfants sont en vacances pour pouvoir accueillir les enfants dans son domicile dès le mois de septembre. Donc pour moi, c'est un dossier qu'on doit pousser et qu'on doit mettre en priorité sur la pile pour pouvoir accueillir en fait les enfants à la rentrée dans de bonnes conditions et non pas dans des travaux. Donc effectivement, il y a des incompréhensions encore. Bon, maintenant, vu la masse et le volume de dossiers qui sont instruits, je veux dire, on a 2,5 millions de personnes qui, depuis 2020, ont bénéficié de MaPrimeRénov'. C'est quand même une belle réussite. Donc, il ne faut pas voir que le côté négatif. Il faut voir aussi les gens qui ont été ravis de pouvoir être accompagnés dans leur rénovation.
Quelles auraient été les conséquences, d'après vous, directes pour la filière de la rénovation dans le bâtiment si le dispositif avait été suspendu ou arrêté?
Déjà, ce qui est entendu, c'est que les retours que l'on a de la Fédération du bâtiment ainsi que de la CAPEB, c'est que c'est plus de 100 000 emplois qui seraient en fait en danger. Donc, ce n'est pas négligeable. Je veux dire, au bout d'un moment, ce n'est pas négligeable parce qu'ils ont quand même fait l'effort depuis ces dernières années de changer leur pratique, de passer d'un modèle de construction vers un modèle de rénovation. Donc, il y a eu une transition aussi dans leur façon de faire. Et donc, on ne peut pas leur demander du jour au lendemain de dire c'est bien, vous avez fait l'effort de faire des certifications, de passer des diplômes, etc. Et là, demain, on suspend ou on arrête. C'est vrai que c'est un frein. Mais il ne faut pas, en fait, casser cette dynamique. C'est une dynamique pour les territoires d'attractivité et d'emploi qui est essentielle.
Désormais, la ministre du Logement, Valérie Létard, a annoncé une réunion le 17 juin de tous les acteurs du secteur du bâtiment pour travailler aux modalités de cette suspension temporaire, avec pour unique objectif de réduire les délais d'instruction qui pèsent trop sur les usagers et sur les entreprises, et de construire les nouvelles modalités de MaPrimeRénov'. Et surtout, en attendant peut-être un nouvel épisode.
Les quatre colonnes, la chronique qui décrypte l'actu sur Radio Immo.